voix nue. Cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Bertrand Burgala. Ce soir, diabétiquement vôtre.
Bertrand Burgala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicien, compositeur et producteur, patron d'un label indépendant. Vous avez travaillé sur un grand nombre de disques. Et vous avez aussi ceci de particulier, que vous êtes diabétique, insulino-dépendant. Vous aviez d'ailleurs publié un livre en 2015, Diabétiquement vôtre, qui était paru chez Calmann Lévy. Pourquoi fallait-il écrire ce que vous appelez ce livre gris du diabète ?
Il m'arrive de faire des choses un peu par défaut, c'est-à-dire que parfois j'aimerais que d'autres les fassent. Et puis comme une grande partie de ce que j'entendais et ce que je lisais sur le diabète depuis que je suis devenu diabétique en 75, depuis que ce nom m'est devenu familier, souvent me horrifier, me consterner, j'espérais que quelqu'un d'autre l'écrive. Enfin, donne un autre ton et donne un autre éclairage sur cette maladie, et non pas par un témoignage égotiste, mais pour essayer de voir ce que le diabète peut aussi dire de notre société. Et d'essayer aussi de contrer un certain nombre d'amalgames et d'approximations à ce sujet.
Dans quelles circonstances est-ce que vous découvrez que vous êtes diabétique ? Vous aviez, je crois, 11 ans, Bertrand Burgala ?
Oui, j'avais 11 ans et je découvre ça à l'issue d'un concert, d'un spectacle qui s'appelait Godspell, qui était une comédie musicale américaine qui avait été importée en France par les mêmes producteurs que Jésus-Christ Superstar. Et j'étais allé voir ça avec des amis à Mulhouse, et à l'issue du concert, j'étais vraiment dans un sale état. J'ai passé la nuit chez ses amis, assoiffé, nauséeux, et le lendemain, on a fait une analyse et on a appris que j'étais diabétique.
C'est intéressant que la découverte du diabète soit liée à la musique, puisque oui. On le comprend dans ce livre, qui ne parle pas que de vous, hein, c'est vraiment une enquête, et vous intéressez à différents aspects du diabète, mais musique et diabète sont très liés. Par exemple, quand vous racontez que jouer sur scène, être en tournée, ça n'est pas du tout évident pour un diabétique. Je me souviens d'une photo de vous au Tricatel Machine, c'était en juin 99, ouais. Avec Peter Van Peul. Et c'est un moment où physiquement vous transformiez, oui. Et vous avez failli perdre la vue, Bertrand Burgala.
Oui, exactement. Ça fait partie des complications qui peuvent atteindre les diabétiques, et j'espère que ça sera de moins en moins le cas à l'avenir. Mais le diabète, c'est une des choses moi qui me consterne quand j'entends parler du diabète, c'est que j'entends souvent donc les mêmes poncifs qu'en 1975. C'est-à-dire que d'un côté on nous dit ça soigne très bien maintenant. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'on minore les spécificités, les difficultés du traitement du diabète insulino-dépendant, en le confondant avec une autre forme de diabète qui peut avoir beaucoup de conséquences difficiles, mais qui n'exige pas du tout la rigueur, la dureté du traitement qui nous est imposé tous les jours. Et de l'autre côté, on minore, mais on assortit tout ça de menaces. Et cette menace, c'est si ça ne va pas, c'est que vous vous y prenez mal et vous allez être exposé au pire châtiment. On vous coupera les jambes, vous perdrez la vue, etc. Et en ce qui concerne la vue, après bien des années de diabète maltraité, effectivement, à seconde moitié des années 90, j'ai perdu la vue. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais un cinquantième à un œil et deux cinquantièmes à l'autre. Et donc, ça devenait vraiment problématique en studio et encore plus sur scène. Oui, c'est vrai.
Vous avez recouvré la vue grâce à différentes opérations.
La chirurgie ophtalmique a fait heureusement plus de progrès que la diabétologie.
Vous le précisiez un instant, il faudrait peut-être expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas la différence de diabète de type 1, celui que vous avez, et le diabète de type 2.
Oui, vous avez tout à fait raison, parce que malheureusement, ce sont deux maladies qui sont souvent confondues, et elles le sont parce que les associations de malades et les équipementiers maintiennent cette confusion, parce que, évidemment, comme il y a beaucoup plus de diabétiques de type 2, ça donne beaucoup plus de poids à leurs propos. Mais le diabète...
Le point commun, c'est le problème de glycémie, de sucre dans le sang.
Mais le diabète, ce qu'on appelle aujourd'hui diabète de type 1, qu'on appelait diabète juvénile avant, parce qu'il touchait principalement des enfants ou des adolescents au départ, il n'est pas lié du tout au comportement, au mode de vie. C'est une forme de suicide du corps, d'une partie du corps, c'est-à-dire que le pancréas, tout d'un coup, cesse de sécréter de l'insuline. Et cette insuline qui permet au sucre d'être absorbé par les tissus, le sucre passe dans le sang. Alors que dans le cas du diabète de type 2, qui est plus environnemental en général, qui dépend plus des modes de vie, dans le diabète de type 2, le pancréas a du mal, ou de plus en plus de mal, à subvenir au moins aux besoins en insuline. Mais dans un premier temps, le diabète de type 2 ne nécessite jamais les injections quotidiennes d'insuline, les analyses permanentes, puisqu'on doit en permanence, dans le diabète de type 1, ajuster nos doses d'insuline, essayer de les faire approcher le plus possible par des piqûres et par des analyses aux besoins du métabolisme et du corps. Mais en tout cas, pour nous, diabétiques, malheureusement, ce qui est accablant, c'est que, l'insuline a été inventée en 1922, et c'est une très belle aventure. Ce sont des chercheurs de Toronto à l'initiative d'un chirurgien orthopédique, donc on voit que déjà, c'est les diabétologues qui n'existaient pas encore. Enfin, ça n'est pas venu de la diabétologie, mais d'un chirurgien orthopédique qui était un type extraordinaire, Banting, qui avait été un héros de la guerre de 14, qui était d'origine modeste et qui, après avoir combattu en France en 14, et était blessé, n'avait plus de travail au Canada. En faisant un exposé pour des étudiants en médecine à qui il donnait des cours, il s'est intéressé au problème de ses enfants qui mouraient dans des souffrances atroces, puisqu'à l'époque, le seul moyen de leur faire tenir un an de plus, ces enfants diabétiques, c'était des régimes de famine à 400 calories, et ils finissaient quand même par mourir. Donc, c'était des enfants qui pesaient 20 kilos et qui souffraient énormément. Et il a eu une idée pour essayer d'extraire de l'insuline du corps d'un animal et de l'injecter à un enfant. Et donc, cette invention qui est magnifique, puisqu'en plus, les inventeurs n'ont pas voulu breveter leur invention pour pouvoir sauver le plus d'enfants dans le monde. Et le laboratoire qui les a aidés, le laboratoire Lilly, a accepté de ne pas breveter son procédé de précipitation isoélectrique qui permettait de stabiliser l'insuline. Donc c'est une très belle aventure. Et malheureusement, aujourd'hui encore, l'insuline reste inaccessible dans la plupart des pays. Le prix a atteint des sommes démentielles et absolument pas justifiées. Et donc j'essaye, voilà... Il me semblait important de pouvoir dire ces choses-là et de pouvoir parler à travers le diabète aussi du monde dans lequel on vit.
J'en reviens à la musique et avec vos mots, Bertrand Burgala, dans ce livre, comme la musique, le diabète ne se voit pas et engendre bien des clichés. En quoi est-ce que les deux exemples que vous donnez, de la mort du saxophoniste de jazz Eric Dolphy ou celle du comédien Francis Blanche, illustrent deux faces de la méconnaissance du diabète ?
Ah, vous avez raison, Eric Dolphy, c'était un diabétique qui s'ignorait et il est mort d'une forme de racisme inversé, c'est-à-dire qu'il, en tout cas d'une forme de préjugé, c'est que il avait soif, donc il était il avait soif parce qu'il avait du sucre. Il était en tournée en Allemagne, il ouvrait un nouveau club qui s'appelait le Tangent, en plus. C'est assez significatif. Il mangeait des glaces, des sodas, donc il était en train de précipiter complètement son corps vers ce qu'on appelle l'acidocétose et le coma. Et à un moment, il s'écroule sur scène, il est hospitalisé, les médecins voient un musicien de jazz noir, ils pensent que c'est l'héroïne. Et quand ils réalisent que c'est pas l'héroïne, mais que finalement que c'est une hyperglycémie, il est trop tard et il est mort. Et Francis Blanche, c'était plus un diabète de type 2 et qui s'est laissé complètement mourir de désespoir. Pareil, l'été d'ailleurs, parce que l'été est pas très bon pour les diabétiques. La chaleur peut être assez dévastatrice. Et effectivement, Francis Blanche, c'est le diabète de type 2 maltraité, mal appréhendé. Mais encore une fois, ce qui m'a intéressé à travers le diabète, parce que j'avais encore moins envie de parler, d'écrire sur le diabète, que cette maladie me pèse déjà beaucoup. C'est quelque chose, quand on essaie de bien se traiter, ce qui est mon cas depuis quelques années, c'est très envahissant. Soit on met le diabète sous le tapis, on se pique deux fois par jour, on est très mal équilibré, mais on survit, ce que j'ai fait très longtemps, mais aussi parce que les traitements n'étaient absolument pas au niveau de ce que la médecine prescrivait aux patients. Soit on essaie de bien faire les choses, c'est très envahissant et on n'a pas envie de savoir tout ça. Mais je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais comment ça se passe, ce dont on ne parle jamais, dans les pays pauvres, Comment ça se passe pour les pauvres dans les pays riches? Parce que c'est aussi le cas maintenant aux États-Unis, par exemple, où l'insuline est devenue tellement chère, là-bas est 5 fois plus chère qu'en France, où en France elle est déjà à un prix ahurissant. Toute personne qui est hors du système de santé aujourd'hui n'a plus accès à l'insuline. Au Venezuela, n'en parlons pas. En Afrique subsaharienne, les enfants diabétiques meurent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de diabétiques de type 1 en Afrique, parce qu'ils sont morts.
Ce livre, Diabétiquement Vôtre, Bertrand Burgala, c'est vraiment véritablement une enquête à la première personne sur le diabète, les diabètes en France, les rapports entre la recherche et les personnes touchées par le diabète. Vous en avez interviewé plusieurs, vous avez rencontré des associations, des chercheurs. Pour rappel, en France, plus de 3 millions de personnes sont atteintes du diabète, tout diabète confondu. On y apprend donc beaucoup de choses et puis vous soulignez certaines réalités comme celle-ci. En 35 ans, le nombre de malades a quadruplé dans le monde et pourtant, quasiment aucune personnalité connue qui se déclare ouvertement diabétique. Comment l'expliquer et qu'est-ce que ça dit de cette maladie ?
Ça dit que c'est une maladie honteuse. Une maladie honteuse dans tous les sens du terme. Parce que la façon dont elle est appréhendée aujourd'hui, à la fois par les autorités de santé, par les industriels, par les associations, est honteuse. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que l'État ne remplit absolument pas sa mission, qui est d'arbitrer dans le sens d'un intérêt qui n'est pas celui nécessairement des patients, ni celui des médecins, ni celui des industriels. Or, il y a une confusion complète des pouvoirs. Les associations de malades sont totalement téléguidées et financées par l'industrie. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment que c'est la façon dont cette maladie est appréhendée est honteuse. Et après, il y a tout un manque total d'informations, y compris dans le milieu médical, puisqu'aujourd'hui encore, dans le monde entier, la plupart des diabétiques insulino-dépendants ne sont détectés qu'au stade du coma et de l'acidocétose, c'est-à-dire quand vraiment ils ont tellement de sucre qu'ils sont en train de mourir. Et donc cette ignorance au sujet du diabète fait qu'effectivement, comme les maladies psychiatriques, le diabète est la seule maladie qui n'a pas de porte-parole. Il y a quelques mois, il y a un hebdomadaire, l'Express, qui a fait un dossier sur le diabète avec une couverture. J'ai rencontré la journaliste. Ce dossier était une honte, parce qu'en réalité, elle savait très bien qu'elle était en train de raconter des bêtises. Qu'un hebdomadaire comme l'Express fasse des unes sur le prix de l'immobilier et le salaire des cadres, grand bien leur fasse, mais de se servir du diabète pour attraper... pour dire à des gens qui ne sont pas diabétiques, attention, testez-vous, vous pouvez devenir diabétique, parce qu'il y a aussi ce problème aujourd'hui que toutes les campagnes de dépistage du diabète ne sont pas destinées à détecter les vrais diabétiques.
Vous appelez ça du recrutement?
Oui, ce sont des campagnes de recrutement de prédiabétiques. C'est-à-dire, on prend toute personne de plus de 50 ans, on lui fait une analyse en fin de repas, comme on a abaissé les normes, on va lui dire, attention, vous êtes prédiabétique. Et c'est là où on rentre dans un contexte économique et politique, c'est que, on a totalement dévoyé, à mon sens, tous les principes de l'assurance maladie. Et au nom de la justice sociale, en réalité, on est en train de faire des choses qui vont dans un sens totalement contraire. C'est-à-dire que dès qu'on est considéré comme diabétique ou prédiabétique, on bénéficie du 100%, ce qui est une mesure qui partait d'un très bon sentiment. Sauf qu'à partir du moment où il n'y a aucun contrôle, c'est une ouverture totale. Le diabète représente plus de 15% aujourd'hui des dépenses de santé en France. Et en réalité, les vrais traitements sont souvent, on fait des économies de bout de chandelle pour des choses parfaitement utiles. Il y a un gaspillage énorme, mais qui n'est pas perdu pour tout le monde. Les grandes entreprises qui vivent du diabète ne sont pas du tout des entrepreneurs, sont pas des inventeurs, la plupart des cas, sont des concessionnaires de services publics.
Bertrand Burgala, il faut préciser que votre position dans le monde musical, par exemple, en tant que directeur de label indépendant, mais aussi comme vice-président du SNEP, qui est le principal syndicat des producteurs. D'ailleurs, vous étiez vice-président avec à vos côtés Stéphane Le Tavernier, qui est le président de Sony Music France, donc il lui appartient à une major. Votre point de vue, ça n'a pas été de dire que les petits indépendants étaient des artisans désintéressés et opprimés par des majors capitalistes. Cette nuance, vous la faites aussi au sein de l'industrie pharmaceutique, puisque vous soulignez qu'il y en a certaines qui travaillent très bien, et puis d'autres qui ont l'air de faire du recrutement. Le problème, vous parlez du problème de remboursement de certains produits par rapport à d'autres. En fait, ce qui vous gêne, c'est l'absence d'une forme de contre-pouvoir.
Exactement. C'est une forme de séparation de pouvoir, d'abord. C'est-à-dire que je trouve que chacun doit être à sa place. Et j'ai beaucoup de respect pour les industriels. J'en ai pour l'État et j'en ai pour les associations de malades. Mais le problème de confusion des intérêts me semble très grave. Je sais très bien qu'il n'y a pas que dans le diabète que ce problème-là existe. Mais dans le diabète, comme il n'y a absolument aucune opposition, dans d'autres maladies comme le sida ou le cancer, il y a eu des vrais contre-pouvoirs. Des associations comme ACT UP, comme AID ont fait des choses, ont vraiment fait évoluer les choses.
Pourquoi est-ce que les associations de diabétiques, comme dans le cas du sida par exemple, ou du cancer, ne se mobilisent pas?
Parce que les associations de diabétiques aujourd'hui, vous prenez les comptes de l'Association française des diabétiques, vous avez 40% de frais d'appel à la générosité publique. Je ne sais pas si l'arc de Croze-Marie avait atteint de tels sommets. Donc ce sont des associations. Dans quelques semaines, vous aurez le congrès de la Société française de diabétologie à Nantes. C'est un congrès qui est financé par les industriels, en contradiction totale avec la loi HPST de 2010, qui interdit ce genre de connivence. Mais tous les efforts de la puissance publique pour venir à bout de ces choses-là. Et je suis pas un chevalier blanc. Moi, quand j'ai fait ce livre, je voulais pas du tout faire un livre manichéen. J'ai demandé à rencontrer tout le monde. Et la plupart des intervenants ont accepté de me rencontrer. Les seuls qui ont refusé, ce sont les industriels. La plupart, encore une fois, il y a eu des contre-exemples. Mais parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude. Pour eux, on ne parle pas à un diabétique. Même si on vit de sa maladie, on parle à des associations qu'on a nous-mêmes financer. Et donc il n'y a aucun dialogue, ce qui est d'une grande violence. Je pense en particulier parce qu'en France, c'est la société qui est tout à fait emblématique de ça, c'est Sanofi. Et une société comme Sanofi, moi j'aime pas du tout le discours à la Élise Lucet en disant je trouve que c'est totalement contre-productif d'aller à une assemblée générale d'actionnaires et reprocher aux dirigeants de vouloir gagner de l'argent. Vous les reconduisez pour 15 ans en disant des choses comme ça. En revanche, dire ce que je dis de Sanofi, qui est de dire « vous êtes l'Areva du diabète, vous finirez comme Areva, vous vous êtes enrichi grâce à la puissance publique en vendant 50% au-dessus de vos concurrents des insulines qui n'avaient aucun intérêt par rapport aux autres. Quand vous perdez de l'argent, on va encore nous faire le coup du colbertisme et de l'état stratège pour payer vos dettes. » Donc dire que Sanofi finira mal, après c'est très mal conduit, on le voit dans le cas de l'affaire Dépakine. Je pense que c'est plus pertinent.
Bertrand Burgala, malgré les apparences diabétiquement vôtres, c'est aussi un livre qui est parfois très drôle, notamment par les titres. « Avec toute mon affection de longue durée » ou « Piqué au vif ». Et puis par exemple au travers des publicités, notamment de publicités de radio que vous citez assez froidement.
Il n'y en a pas sur France Culture, ça c'est bien. C'est sur les radios périphériques en général.
Et puis vous citez aussi celle du dentifrice Sensodyne. On est sur une vraie bonne nouvelle. Magie de la langue publicitaire. Il y a aussi un geste d'auteur dans votre analyse très précise des mots utilisés autour de la recherche du diabète. La dernière étude complète sur le coût du diabète remonte à 2007 et vous précisez qu'elle est délicieusement nommée « entraide ». Qu'est-ce qui se joue pour vous entre les mots de « lentus » et « apollo » ?
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Lentus, c'est donc l'insuline le best-seller de Sanofi qui leur rapporte jusqu'à 7 milliards par an.
Et c'est une insuline qui est mieux remboursée que les autres insulines. Alors que d'après vous, elle n'apporte pas
C'est pas d'après moi, c'est d'après la Haute Autorité de Santé, ce qu'on appelle la SMR, amélioration de service médical rendu, est inexistante. Mais Sanofi a réussi à imposer l'idée qu'elle serait supérieure aux autres, donc contre toute évidence, et a réussi depuis 2003 à la faire rembourser 50% au-dessus de ses concurrentes et à bloquer d'autres insulines plus récentes, d'ailleurs beaucoup plus intéressantes. Alors maintenant, la Lantus étant dans le domaine public, elle s'appelle maintenant Toujeo, mais vous avez effectivement Toujeo, oui, c'est on dirait, enfin, voilà, c'est des noms. Et c'est vrai que vous avez, il y a une innovation pour laquelle je me suis beaucoup battu, qui a été faite par un laboratoire américain, Abbott, le Freestyle Lib, qui a changé depuis 2 ans, la vie des diabétiques insulino-dépendants, puisqu'on n'est plus obligé de se piquer au bout des doigts en permanence.
Et il y a eu pour un musicien à son importance.
Bah oui, bien sûr. Je redécouvre le plaisir de faire de la musique avec des doigts. qu'il y a eu beaucoup d'entraves, et parce qu'il y a beaucoup aussi de conservatisme, hein, dans ces milieux-là. Mais et c'est vrai que quand je demande aux responsables de ce projet quel était le nom de code de leur recherche, ils disent Apollo. Et moi, ça m'a beaucoup ému. J'ai pleuré quand il m'a dit ça, parce que c'était la première fois que je sentais qui avait un peu d'ambition dans cette affaire.
Mais c'est le mot de la conquête.
Ben oui, et je vais vous dire, en réalité, par exemple, pour la recherche sur le diabète, je suis, par exemple, dans un pays comme la France, je suis pour l'arrêt de toute la recherche publique sur le diabète, si elle n'est pas conditionnée à des objectifs précis. Parce qu'actuellement, vous avez des sociétés qui fabriquent des choses en France à coût de subvention, des produits qui sont déjà sur le marché ailleurs. Et les fonds publics subventionnent des choses qui ensuite partent dans des sociétés privées. Et je pense qu'il faut faire très attention. Si on veut vraiment vaincre le diabète, il faut beaucoup plus coordonner les efforts. Et ce manque d'ambition fait que la recherche s'est fourvoyée pendant des dizaines d'années sur des produits marketing qui n'ont aucun intérêt, y compris pour nous. L'insuline en spray. Quand j'ai commencé, on me parlait d'insuline en suppositoire. Heureusement, ils n'ont pas réussi à la mettre au point. Mais enfin, mais c'est vous dire. Mais en revanche, ce dont je me suis rendu compte, en revanche, en écrivant ce livre, c'est que contrairement à mes appréhensions, ça intéresse des gens de vaincre le diabète et de le guérir. Il y a beaucoup de start-up, parce qu'il y a un intérêt quand même, y compris financier, et c'est important, il ne faut pas du tout le négliger, à vaincre le diabète. Mais malheureusement, voilà, je trouve qu'il y a un manque de coordination, il y a un manque d'ambition. Dès qu'on dit qu'on est diabétique, il y a des gens qui disent « Ah ben, j'ai entendu l'autre jour qu'il y a un nouveau traitement qui arrive, qui est formidable, etc. » Et nous, ça nous agace parce que
Vous avez passé votre vie à entendre des annonces.
Oui, exactement. Et quand il y a de vrais progrès, en plus, il y a une telle inertie après pour les mettre en place que finalement, on est assez... on est assez dépité, mais en même temps, moi, je suis très optimiste. Je suis sûr que les choses vont évoluer positivement sur le diabète. Je pense qu'il faut que nous, en tant que malades, on soit pas du tout dans un truc pleurnichard ou géniard, mais qu'on soit quand même dans quelque chose d'un peu plus conquérant et offensif.
Il est diabétique, ça le rend hargneux. Vous citez cette interview parue dans Les Inrecuptibles en 99, interview de Andy Partridge du groupe XTC, et c'était des propos qu'il tenait à propos de son guitariste Dave Gregory. Qu'est-ce que l'on prête au diabète et qu'on ignore par la même occasion ?
Il y a beaucoup de poncifs, d'inexactitudes, d'approximations sur le diabète, mais le fait que l'excès de sucre ou l'excès d'insuline a une incidence sur notre psychologie, c'est tout à fait vrai. Ça dépend des personnes. Moi, en ce qui me concerne, l'excès d'insuline peut me rendre extrêmement agressif. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous enlève toute force physique. Mais il y a des...
Ce qui est pas commode.
Mais moi, j'attends beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour Theresa May parce qu'elle est diabétique. C'est une diabétique récente de type 1 depuis 5-6 ans. Mais je trouverais extraordinaire que dans un sommet international, tout d'un coup, elle colle une claque à quelqu'un. Mais ça serait pour moi dans l'ordre des choses tout à fait envisageables.
Ça vous est beaucoup arrivé, Bertrand Burgala ?
Oui, mais ce que j'explique dans le livre, c'est que l'hypoglycémie rend agressif, en tout cas elle me rend agressif, mais elle enlève beaucoup de force physique. Donc il faut arriver quand même à avoir un petit peu d'instinct de survie à ce moment-là pour essayer de se raisonner. Et c'est très difficile après de rappeler les gens en disant « Écoute, je suis désolé, je t'ai traité de machin, mais j'étais en hypoglycémie, on prend ça pour une excuse. » Mais il y a un exemple, moi, que je trouve très significatif et dont personne n'a parlé, c'est au moment de la tuerie de Charlie Hebdo et de Montrouge. Une des personnes qui a vraiment affronté les terroristes et en l'espèce Amedy Coulibaly, c'est un agent municipal de Montrouge. Quand Coulibaly a tué une policière, il y avait un agent de voirie de la ville de Montrouge qui était présent, qui a un diabétique insulino-dépendant, qui était à ce moment-là en hypoglycémie. Il était en train de faire une hypo et il s'est quand même jeté sur Coulibaly, s'est emparé de sa Kalachnikov et tombé avec la Kalachnikov parce que malheureusement il n'était pas assez, il avait plus de force quand on est en hypoglycémie. Et Coulibaly à ce moment-là a sorti un pistolet automatique et a essayé de l'abattre, lui a tiré dessus. Et heureusement, c'était un pistolet qui avait dû être bricolé. L'arme s'est enrayée, mais il devait mourir. Et je trouve que on n'a pas du tout. Il y a eu un article du Parisien qui a parlé de cet homme, mais je trouve que pour les diabétiques, voilà un héros positif, voilà quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde. Mais qu'en plus, ça soit un diabétique, ça, je trouve que c'est, il y a un élément d'identification un peu plus intéressant qu'un imbécile comme Jean Reno qui déclare dans l'Express, je suis diabétique, et alors, et c'est pas un diabétique, c'est un diabétique du dimanche qui mange trop, et on lui dit, qu'est-ce que le diabète a changé pour vous? Il dit, le dîner. Pour un diabétique, on entend ça. Alors, il faut pas être en hypoglycémie, parce qu'autrement, moi, je me jette sur Jean Reno.
Bertrand Burgala, vous le racontez aussi dans ce livre, Diabétiquement Vôtre. Vous avez pu l'écrire, ou en tout cas, ça a pu changer votre perception de vous-même, grâce au journal de votre mère, que vous avez retrouvé, et qui raconte, justement, le moment où elle découvre que vous êtes diabétique. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même et de votre mère, à la lecture de ce journal?
J'ai découvert à ce moment-là ce que peut être la culpabilisation des proches et des parents. Je n'avais pas pris la mesure du drame que l'arrivée du diabète avait été pour eux. Quand on est enfant, à chaque fois, je déteste justement tout ce verbiage autour de l'acceptation. Est-ce que vous acceptez votre diabète? Est-ce que vous acceptez de perdre un bras? Est-ce que, enfin, je ne supporte pas ce langage... ce verbiage, mais donc moi quand je suis devenu diabétique, j'avais pas le choix. C'est pour ça quand on nous dit comment tu fais pour te piquer, moi je pourrais pas, mais bien sûr, n'importe la piqûre, c'est ce qui nous fait vivre, donc la question ne se pose pas. En revanche, j'avais pas pris la mesure pour les parents de la culpabilité qu'ils avaient, qui est une culpabilité absolument infondée, puisqu'il y a, contrairement à ce qu'on raconte, il y a absolument, et puis même si c'était le cas, il n'y a pas de lien génétique, il n'y avait pas de diabétique dans ma famille. Mais pour mes parents, ça a été un drame. Et en plus, très vite, j'aurais reproché, c'est-à-dire je disais à mon père, t'étais trop gros quand je suis né, enfin, et j'avais pas pris la mesure de la peine que je leur causais avec ça. Et j'en ai parlé dans mon livre parce que c'est un élément que beaucoup de diabétiques connaissent et beaucoup de proches de diabétiques ne savent pas comment se comporter. Parce que comme c'est une maladie qui ne se voit pas, encore une fois, c'est très très difficile à appréhender. Il y a un diabétique qui a été comme moi à l'hôpital Hérold avec le professeur Lestrader, qui a fait des choses très bien et d'autres moins bien. Il m'a dit qu'à l'époque, Lestrader avait dit à ses parents, quand il est devenu donc des années 70 diabétique, il lui a dit « Votre enfant va devenir méchant ». Vous vous rendez compte la violence quand même de dire ça à des parents. Votre enfant va devenir méchant. Et encore une fois, Lestrader n'est pas le pire qu'il y ait eu dans le diabète.
Vous n'êtes pas devenu méchant, Bertrand Burgala?
J'espère pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une violence quand même autour du diabète. Et aujourd'hui encore, vous vous rendez compte que ce que la diabétologie, malgré tous les congrès à l'île Maurice qui ont pu être organisés, en 100 ans, la diabétologie n'a inventé qu'une chose, c'est ce qu'ils appellent l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire de dire, on va apprendre aux diabétiques à se soigner eux-mêmes. Mais le mot lui-même, éducation, est très intéressant. Parce que d'abord, beaucoup de diabétiques en connaissent souvent beaucoup plus que leurs soignants. Vous avez des services aujourd'hui qui coûtent une fortune à l'assurance maladie comme Sophia, qui profite encore une fois, ou MyDiabetes, qui profite à des personnes privées, mais qui sont financées par l'État. Mais vous avez, quand ils vous appellent, ça fait de la peine. C'est-à-dire que ce sont des personnels qui ont été formés à la hâte pour gagner de l'argent, mais qui ne connaissent rien au diabète en réalité. Et donc, il y a une vraie méconnaissance, y compris chez certains soignants, mais toujours ce paternalisme, éducation du patient, quand même. Moi, je trouve ça très, très, très significatif. On n'a pas à être dressé, on n'a pas à être éduqué. Et en général, par la force des choses, on l'est, on se débrouille.
On en restera là pour aujourd'hui. Merci, Bertrand Burgala. À demain.
Merci beaucoup. À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Bertrand Burgala. À voix nue. Réalisation Thomas Beau. Prise de son Sandrine Malon. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.